Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre série concernant les anges qui nous servent. Nous arrivons à l'étude numéro 7 et nous aurons 4 courtes études. Premièrement, l'ange qui promet un enfant. Deuxièmement, l'ange qui annonce la joie. Troisièmement, l'ange qui apparaît en rêve. Quatrièmement, nous avons l'ange qui est au service de la vie. Premièrement, donc, l'ange qui promet un enfant, c'est l'archange Gabriel. Gabriel est le troisième ange auquel la Sainte Bible donne un nom. Ce nom signifie « force de Dieu » ou « héros de Dieu ». Sa tâche consiste essentiellement dans l'évangile de Saint-Luc à annoncer la naissance d'un enfant porteur de la bénédiction divine. L'archange Gabriel promet à Zacharie que sa femme Élisabeth, en dépit de son âge déjà avancé, aura un fils. Ce fils devra recevoir le nom de Jean, Yohanan, qui signifie « Dieu est toute grâce ». Puis Gabriel est envoyé à Nazareth vers une vierge nommée Marie. Il entre et lui dit ceci, « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Saint Luc, chapitre 1, versets 28 à 32. Dans des situations qui paraissent sans issue, l'archange Gabriel promet un enfant. Oui, un nouveau commencement. Élisabeth, qui, en raison de son âge, n'attendait plus d'enfant, Marie, la Vierge, qui ne connaît aucun homme, toutes deux deviennent enceintes, et cela de façon miraculeuse. Dans les deux cas, les hommes n'y sont pour rien. Zacharie devient muet pendant la grossesse de sa femme. On ne lui demande pas son avis. Joseph ne joue aucun rôle dans l'engendrement de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait misé sur l'homme, c'est-à-dire sur Adam. Mais cette fois-ci, il mise sur la moitié féminine, c'est-à-dire sur Marie et son fils Jésus, qui, de tous les prophètes et fondateurs de religion, à l'échelle du monde, se révélera être le plus merveilleux à travers son enseignement de l'amour, son attitude extraordinaire, amicale envers les femmes, son rejet de l'épée et de toutes les formes de violence. C'est pourquoi l'archange Gabriel est parfois considéré comme un archange féminin, comme une sorte de sage-femme céleste, veillant à ce que la naissance se passe bien. Ce thème de l'ange annonciateur de la naissance de l'enfant divin, nous le retrouvons dans toutes les religions. C'est une image archétypique qui fait encore un sens pour nous aujourd'hui. Il nous dit qu'à chaque naissance est associée la promesse d'un ange que tout enfant est précieux et grand et fils ou fille du Très-Haut est chargé d'accomplir en ce monde une tâche importante. Sur la naissance de chaque enfant, il y a un ange qui veille, et c'est ainsi que les pères de l'Église ont vu les choses. La naissance n'est donc pas un simple processus biologique, mais toujours un mystère, une promesse de nouveauté, d'inédit. L'histoire des deux promesses au début de l'évangile de Saint Luc est là pour nous ouvrir les yeux sur le mystère de notre propre naissance. Au-dessus d'elle aussi, l'archange Gabriel est présent. Dieu l'a envoyé pour que nos parents mettent au monde un enfant, pour que quelque chose de nouveau apparaisse en ce monde, une nouvelle image de Dieu, une image qui restera unique. Et nous avons donc une mission. Nous ne sommes pas là simplement pour que notre vie se passe plus ou moins bien. Il ne suffit pas que nous survivons tout juste, mais notre devoir est de pressentir à l'arrière-plan de l'histoire de notre naissance quelle est cette mission dont nous sommes chargés. Il est d'entrer en communication avec l'ange qui a veillé sur notre naissance. Alors, nous deviendrons ce fameux mystère que nous sommes. Nous ne nous sentirons plus dépourvus de valeur. Nous découvrirons, au contraire, la dignité unique que Dieu nous a conférée. Au-dessus de chacun de nous est inscrite une promesse. S'il est très nécessaire pour nous de regarder en face notre vie et de faire sur elle un travail, il est tout aussi important de regarder en avant et de découvrir la promesse qui nous est accordée. Nous avons donc une mission. Nous avons un avenir. Si nous considérons notre histoire, ce n'est pas pour y rester enlisé, mais pour apprendre quelques missions. Oui, quelques missions. Cette mission qui nous est destinée et certaines promesses qui nous ont faites. Et il y a des promesses qui nous ont été faites. Voyez-vous l'archange Gabriel. Ce n'est pas seulement l'ange qui promet quelque chose, mais c'est aussi celui qui interprète. Ainsi, le prophète Daniel, il entend une voix humaine qui dit « Gabriel, donne-lui l'intelligence de cette vision. » Il s'avança vers le lieu où je me tenais, et comme il approchait, eh bien, je fus saisi de terreur et je suis tombé face contre terre. Alors, l'archange me dit, « Fils d'homme, comprends, c'est le temps de la fin que révèle la vision. » Daniel chapitre 8, versets 16 et 17. L'archange Gabriel nous explique nos visions. Il nous aide à comprendre ce que notre cœur pressent confusément. Il ne suffit pas que nous soit annoncée une nouvelle naissance, promis un recommencement. Mais nous avons aussi besoin de comprendre quel effet Dieu se propose de produire en nous. C'est seulement si nous interprétons correctement notre vie que nous pourrons la réussir. Si nous saisissons le sens de notre vision intérieure, que nous en serons maîtres. Nous serons maîtres si nous avons accepter de comprendre. Voyez-vous, l'ange Gabriel, il nous promet que l'enfant divin naîtra en nous et qu'il nous donne à comprendre ce que Dieu opère en nous et par nous. Et puis, l'archange Gabriel, c'est l'ange qui accompagne comme une sage-femme céleste cette naissance. Aussi bien, toute naissance est-elle douloureuse, c'est vrai, il nous faut donc passer par un canal obscur pour avoir accès à la vie dans toute son ampleur et sa liberté. L'archange Gabriel, eh bien, c'est l'ange sans doute le plus chargé de pouvoir de tous ceux dont nous parle la Sainte Bible. Ce rayonnement de l'archange Gabriel, même les peintres l'ont représenté sur de nombreuses annonciations. La fonction de l'archange Gabriel, c'est de nous mettre en communion avec notre âme. Le but de Gabriel, c'est de nous féconder comme Marie, afin que notre âme puisse devenir aussi grosse de la sainte parole de Dieu. Vous avez compris ce que ça veut dire, de grandir dans la sainte parole de Dieu, afin que, qu'en nous aussi, le Verbe puisse se faire chair. Et Gabriel représente, bien entendu, la dimension de la spiritualité. Vivre selon l'Esprit Saint, cela signifie aussi, en même temps, être pénétré, imprégné de l'amour de Dieu, de telle sorte que notre corps tout entier reflète cet amour merveilleux. Deuxièmement, nous avons l'ange qui annonce la joie. C'est à l'époque de Noël que nous aimons le plus les anges. L'ange de Noël décore les vitrines des magasins et des maisons. À Noël, tout le monde écoute, fasciné, l'histoire de la naissance de Jésus, à l'occasion de laquelle les anges jouent un rôle tellement décisif. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et qui gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Or, l'ange du Seigneur s'est tenu près d'eux et la gloire du Seigneur les a enveloppés de sa clarté et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur a dit, « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple, car aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Et soudain, se joignit à l'ange une troupe nombreuse, vraiment nombreuse, de toute l'armée céleste, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes, objet de sa complaisance. » Saint Luc, chapitre 2, versets 8 à 14. Les enfants sont toujours fascinés par l'ange de Noël qui apparaît aux bergers dans la campagne. Pour eux, c'est le ciel qui s'ouvre et l'hiver froid et sombre s'éclaire et se réchauffe. Il n'est sans doute aucune période de l'année qui enchante autant les enfants que celle de Noël. Ils sentent alors que le monde n'est pas rien que froidure. Oh non! À Noël, ils cessent de rencontrer chez leurs parents des sentiments figés, même les cœurs les plus froids se dégèlent et s'ouvrent. À ce moment-là, les enfants voient venir à eux un amour issu d'un autre monde. Et cet amour, c'est à travers l'ange qu'ils peuvent le mieux le saisir. L'ange, c'est pour eux l'image du pur amour et le pressentiment d'un monde intact. Sur leur monde à eux, blessé, abîmé, se répand une lueur de salut et de paix. La magie de Noël leur permet de sentir que chez eux, ils ne sont pas seulement tolérés et supportés, mais aussi maintenus en sécurité et reconnus dans leurs valeurs. Il n'y règne plus seulement la querelle et la haine, bien au contraire. Avec l'ange, c'est un autre monde qui a fait irruption et la maison peut maintenant accueillir, elle peut être accueillante. Elle peut devenir soudain le lieu où ils se sentent enfin chez eux. Dans son récit de la nativité, Saint Luc nous parle de deux anges différents. Pardon. Le premier, c'est celui qui annonce au berger la grande joie qui doit devenir celle du peuple tout entier, parce que le Sauveur, le Messie est né. Il s'agit là d'une qualité essentielle de l'image de l'ange, et c'est par lui que la joie fait son entrée dans le monde. Il métamorphose le monde. La nuit des bergers, elle s'illumine de l'éclat répandu par l'ange. Ces bergers qui veillent dans la nuit sur leurs troupeaux, ils nous font penser aux nuits sans sommeil, où nous ne cessons de nous tourner et retourner, hors d'état de nous endormir à force de songeries privées de repos, tout simplement par l'angoisse et par la désespérance. Et cette nuit d'insomnie, voilà qu'elle s'éclaire. Or, à nos ruminations privées, de sens à nos ruminations, vient donc maintenant répondre le Sauveur qui nous tire du désespoir et de l'angoisse et qui guérit nos blessures. Ce qui arrive aux bergers pendant leur garde nocturne peut aujourd'hui encore, à tout instant, devenir une réalité non seulement à Noël, mais toujours, quand notre nuit se transforme, quand les ténèbres de notre cœur s'éclairent et que la veille qui s'impose à nous reçoit enfin une réponse. Des adultes racontent que dans leur enfance, il leur arrivait souvent de rester éveillés sans sommeil des nuits entières. Ils doutaient de l'amour de leurs parents. C'était mon cas. Ils étaient, on peut dire, dans un profond désarroi. Tout ce qu'ils faisaient était fait de travers, jamais à la convenance des parents. Ils ne trouvaient pas le sommeil parce qu'ils avaient peur que les parents ne recommencent à se disputer, que le père commence à battre la mère, ou encore que les parents, tout simplement, ne les abandonnent. Oui, c'est terrible. Alors, ils se sentaient désespérément seuls. Et si dans de telles nuits, un ange apparaît et promet une grande joie, alors la naissance d'un sauveur, un sauveur qui apaisera leur angoisse, les enfants retrouvent enfin le calme et l'ange veille pour eux, ils n'ont plus besoin de le faire eux-mêmes. Dans un récit de 1949, c'est il y a longtemps de cela, et la vie était totalement différente d'aujourd'hui, vous pouvez me croire. Là, c'est un récit qui est intitulé « Des anges dans la nuit ». Donc, « Des anges dans la nuit ». C'est le titre. Et c'est, comment est-ce qu'il faut dire, j'aime pas le mot « romancière », mais cette personne qui a écrit de nombreux volumes intéressants, Ilse Eichinger, elle a raconté comment deux sœurs, âgées de 15 et 7 ans, désiraient ardemment faire l'expérience de l'ange pour surmonter leur sentiment désespérant d'être totalement seules et incompris. Dans ce récit, on perçoit l'écho de l'expérience personnelle d'une enfant qui est juive au temps du Troisième Reich. Ilse Eichinger a réellement connu la solitude. Son enfance lui a été totalement volée. Et dans cette longue nuit de la violence et de la persécution, le seul moyen d'affirmer son existence, c'était de croire en l'ange. Plutôt pas de monde du tout, qu'un monde sans ange. C'est ce qu'a dit la plus jeune des deux. Je répète, la plus jeune de ces deux sœurs a dit « Plutôt pas de monde du tout qu'un monde sans ange. » Mais leur monde est détruit, totalement abîmé, maltraité, des souffrances atroces. Et l'aîné qui veut jouer les anges pour sa cadette, malheureusement, elle finit par perdre la raison et elle se suicide. C'est terrible. Voyez-vous, chers amis, pour beaucoup d'enfants, il est d'une importance vitale de croire en l'ange qui apporte une lumière dans la nuit et la joie dans la désolation. Si l'enfant peut surmonter l'épreuve d'une vie quotidienne aride et sans espérance, c'est seulement parce qu'un ange lui annonce une grande joie. Outre l'ange de l'Annonciation, on voit apparaître dans l'histoire de la Nativité toute une armée d'autres anges qui chantent les louanges de Dieu et promettent la paix aux hommes. Ils sont souvent représentés par les arts plastiques comme des créatures enfantines soufflant joyeusement dans un instrument de musique ou chantant en chœur pour réjouir Dieu et les hommes. On saisit là quelque chose de la légèreté de l'être que ces anges incarnent. Par les anges, tout devient plus léger, plus lumineux, plus joyeux, et grâce à eux, on peut de nouveau chanter. Oui, les enfants chantent souvent quand leurs parents les laissent dans la solitude, quand ils se sentent totalement isolés dans la nuit de leur existence. Pour eux, le chant est une thérapie. Ils entrent en contact avec un autre monde, fait de joie et d'exubérance. Certains enfants ne peuvent survivre aux cris d'un père terriblement coléreux ou aux récriminations constantes d'une mère acariâtre qu'en se chantant leur propre chanson. C'est ainsi qu'ils se préservent du bruit nocif qui les environne et qu'ils ressentent dans leur cœur une joie une joie nouvelle que personne ne peut leur enlever. Cette fonction thérapeutique du chant ne vaut pas pour les seuls enfants, pour les adultes aussi. Il peut être salutaire de laisser venir à eux les anges enfantins de la joie et de chanter toutes seules en faisant la cuisine, en prenant leur bain ou en se promenant tout simplement. Les anges de la nativité forment donc une conspiration de l'amour. Ils font le bien entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humanité, le Messie nouveau-né et les bergers. Les artistes, du reste, les ont souvent représentés comme des figures enfantines ailées. En effet, les anges existent dans la région intermédiaire entre les mondes divins et humains, entre l'homme et la femme, tel un courant d'amour qui va de l'un à l'autre pôle et donne des ailes à notre âme. Les anges de la nativité nous font sentir ce courant entre Dieu et nous. Le rayonnement des anges procure à notre âme la vie et la santé. Par les anges, nous avons une ouverture sur un autre monde. Oui, celui de l'amour divin. De l'amour divin qui descend jusqu'au fond des ténèbres de notre nuit. Quand deux êtres s'éprennent l'un de l'autre, alors c'est un monde nouveau qui s'ouvre pour eux aussi. Les anges de la nativité nous font sentir qu'entre Dieu et nous s'opère le même échange amoureux que entre les amants. Quand nous nous ouvrons à lui, eh bien notre vie en est renouvelée. Alors même, en tant qu'adultes, nous sommes pris par la magie de Noël et en dépit de toutes les déceptions, nous faisons confiance à l'amour qui, par les anges de la nativité, vient rayonner dans notre monde. Troisièmement, nous avons l'ange qui apparaît en rêve. Oui, l'ange qui apparaît en rêve. En effet, l'évangile de Matthieu nous raconte la naissance de Jésus vue selon la perspective de Joseph. Celui-ci reçoit sans cesse en rêve la visite d'un ange, qui lui explique ce qui se passe. Joseph n'avait pas compris comment sa fiancée pouvait être enceinte. Il voulait se séparer d'elle sans aucun bruit. Et c'est alors qu'un ange intervient pour l'éclairer sur ce qui est advenu à Marie. Cet ange lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. » Saint Matthieu, chapitre 1, versets 20 et 21. Ni par sa seule intelligence, ni même par sa profonde pureté, c'est un juste. Oui, c'est un juste, Joseph. Il n'était pas en mesure de s'expliquer la grossesse de sa fiancée. Il fallait pour cela qu'un ange lui vienne en aide. L'ange apparaît donc à Joseph en rêve. Plus tard, quand l'enfant subit, écoutez bien, la persécution de Hérode, à nouveau un ange apparaît à Joseph. Et cet ange lui dit ce qu'il doit faire. et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te le dise. Car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Saint Matthieu, chapitre 2, verset 13. Et lorsque Hérode est mort, l'ange revient en rêve et ordonne à Joseph de s'en retourner. Joseph obéit toujours immédiatement à l'ange. Il se lève et fait exactement ce que l'ange lui a dit de faire. Aujourd'hui encore, le rêve est pour bien des êtres le lieu où ils rencontrent les anges. Depuis toujours, les hommes croient que c'est un ange qui leur envoie des rêves. Il peut nous mettre en garde contre un danger. Il peut aussi nous expliquer une réalité que sans lui, nous comprendrions mal. Il peut encore nous apporter une promesse, une bonne nouvelle, nous signaler que en nous veut naître quelque chose d'absolument neuf. Quatrièmement, nous avons l'ange qui est au service de la vie. Oui, l'ange n'intervient pas seulement par le rêve dans notre vie, il est présent aussi au cœur de notre désert, de notre solitude et de notre dépression. La chose apparaît clairement dans la scène de la tentation que l'évangile de Marc décrit en deux courts versets. Et il est dit aussitôt, l'Esprit le pousse, Jésus, au désert. Et il était dans le désert durant 40 jours. Là, il est tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Saint Marc, chapitre 1, versets 12 et 13. Alors que selon Saint Marc, les anges approvisionne Jésus pendant toute la durée de son séjour au désert, selon saint Matthieu, c'est seulement après la tentation qu'ils viennent vers Jésus pour le servir. Saint Matthieu, chapitre 4, verset 11, transformant ainsi la montagne de la tentation en celle du paradis. Donc, Jésus est maintenant au désert. Le mot grec « eremos » signifie « désert », lieu inculte et solitaire. Et c'est là que Jésus est tenté par Satan, mais Satan ne parvient pas à le vaincre et les animaux sauvages ne peuvent pas lui faire de mal. Ils partagent même leur vie. Et en effet, il y a autour de Jésus des anges qui le servent et qui lui apportent de la nourriture. Les anges le nourrissent et l'entourent de leurs soins, lui procurent tout ce dont il a besoin pour vivre. Voyez-vous, Satan représente la séparation d'avec Dieu, c'est l'apostasie. Satan essaye de faire que Jésus se fonde sur sa propre grandeur au lieu de se mettre à la disposition de Dieu le Père. Chez saint Matthieu et chez saint Luc, la tentation de Jésus prend cette forme concrète. Satan lui propose d'accaparer à son profit la puissance et le pouvoir de se servir de Dieu le Père pour se présenter aux humains comme un grand gourou, un faiseur des miracles. Or Jésus résiste à cette tentation-là. Il reste au service de son Père, Yahvé l'Éternel. Il reste perméable à Dieu, obéissant à sa volonté. Dans la mythologie, les bêtes sauvages symbolisent toujours les pulsions, les passions, la vitalité de l'instinct, comme Jésus qui est intégré à son humanité. Jésus vit en paix avec tous. Les anges l'environnent et ils le servent. Il transforme le désert en un Éden. Jésus, c'est le nouvel Adam. C'est l'homme fait à l'image de Dieu, souverain de la terre et représentant sur elle de toute cette image. Voyez-vous, pour nous aussi, les anges transforment le désert en paradis, en un pays où nous nous sentons enfin chez nous. Ils nous servent là où nous sommes coupés de la vie, où notre humanité est menacée par les pièges dans lesquels nous ne cessons de retomber, ou par les sentiments qui nous déchirent. Ils nous servent afin que la vie en nous s'épanouisse. Il y a des enfants qui souvent éprouvent l'espace de leur vie comme un désert où ils se sentent abandonnés, coupés de tout et de tous. Autour d'eux, c'est le vide le plus morne, l'absence de relations et de sens, et cela sans perspective de changement. À la longue, aucun enfant ne pourrait survivre dans un tel désert. Si des anges ne venaient sans cesse à lui pour le nourrir et prendre soin de lui, alors en dépit de cet environnement désolé, l'enfant déploie une vivacité, une joie de vivre, une spontanéité et une imagination dont on se demande d'où il les tire. Et c'est qu'un ange prend soin de lui dans son désert. Et l'ange qui l'accompagne le protège contre les bêtes sauvages, contre son propre potentiel passionnel qui, sans lui, n'aurait pas de limite, et contre les agressions déchaînées des adultes dont l'enfant ne pourrait pas se défendre s'il n'avait un ange à ses côtés. Cependant, les enfants ne sont pas les seuls à vivre de tels séjours au désert. Nous connaissons tous la tentation. Tout au long de notre vie, il y en a. Satan ne nous tend sans arrêt, il nous tend des pièges. Ce peuvent être les schémas de la vie du passé qui nous reviennent sans cesse, où Satan nous dit « Rappelle-toi, tu as fait ça. Eh bien, jamais tu seras accepté par Jésus. » Oui, c'est terrible. Dans ces choses du passé dans lesquelles nous ne cessons souvent de retomber. Et pour l'un, ce sera le schéma de la culpabilité, cette culpabilité terrible qu'il cherche toujours en lui-même et qui fait qu'il se dévalorise totalement. C'est l'obsession permanente de tout faire à la perfection, mais sans y arriver. À de tels êtres, la moindre faute, la moindre erreur rappelle les vieux schémas de leur enfance. Oui, chers amis, nous sommes sans cesse confrontés aux bêtes sauvages, c'est-à-dire aux esprits mauvais qui nous veulent du mal, que nous portons parfois en nous, à nos passions, à nos pulsions, tous ces animaux, entre guillemets, nous n'avons pas le pouvoir de les vaincre par nous-mêmes. Oui, chers amis, c'est vrai, mais il est 100% clair, absolument, que la victoire, en ce qui nous concerne, vous et moi, elle se trouve uniquement en et par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Chers amis, nous allons prier ensemble. Et je voudrais tout d'abord vous lire une strophe d'un cantique très ancien. Ensuite, le psaume 5. Et après, nous prierons ensemble. Voici le cantique. Voici les paroles. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je suis plein d'espérance et je marche sans peur. Oh, que toute la terre apporte à son Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour proposer aux coupables un salut éternel. Le psaume 5 nous dit: Seigneur Dieu, prête l'oreille à mes prières. J'ai pris cela dans la version allemande, mais rassurez-vous, c'est pareil chez vous. Donc, psaume 5, prête l'oreille à mes prières. Mon roi et mon Dieu, sois attentif à la voix de mon cri, car c'est toi que je prie. Éternel, dès le matin tu entends ma voix. Dès le matin, je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à l'iniquité. Le méchant n'habitera point avec toi. Mais moi, dans l'abondance de ta grâce, j'entendrai et j'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai, oui, dans le palais de ta sainteté et ta crainte. Que tous ceux qui se retirent vers toi puissent se réjouir, qu'ils chantent de joie à jamais. Sois, ô Seigneur, leur protecteur, et que ceux qui aiment tous son saint nom puissent triompher en toi. Car toi, Éternel, tu bénis le juste, tu l'environnes de ta bienveillance comme d'un bouclier. Prions. Ô notre Dieu, veuille disposer toi-même nos cœurs à te rechercher dès le matin. Notre cœur nous dit de ta part: cherchez ma face, fais lever sur nous la clarté de ta face, ô Éternel. Nous t'adorons, Seigneur, nous te rendons grâce pour tes bienfaits et nous appelons sur nous toutes les bénédictions en Jésus, notre Sauveur. Ô, pénètre nos cœurs de reconnaissance et d'amour envers toi. Que te rendrons-nous, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Ouvre notre bouche, afin qu'elle raconte tes louanges. Ô Jésus-Christ, toi seul es le chemin, la vérité et la vie de nos âmes. Demeure en nous, et nous en toi, comme toi-même tu demeures dans le Père. Hors de toi, nous ne pouvons rien, mais en toi, nous pouvons toutes choses. Que nous demeurions attachés à toi, divin cep, pour la joie de notre vie présente et pour notre salut éternel, afin qu'étant par ta grâce affranchis du péché, nous vivions désormais pour la justice et dans la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Que ta grâce et ta paix reposent sur nous, qu'elles reposent aussi sur tous les nôtres, auprès et au loin, et que tous ensemble, nous puissions t'invoquer et te servir. Nous te le demandons pour l'amour de ton saint nom. Amen. Amen. Et chers amis, merci encore pour l'intérêt que vous portez à ces études très diverses. Il y en a tellement de sujets. Il y a plus de 3000 CD que vous pouvez écouter sur Internet. 3xw.bibleexplique.ch. Et Dieu voulant, malgré mon très grand âge, à demain matin pour la suite de cette série. Au revoir, mes très chers amis.